Dans Libération ce matin, l'interview d'un fantôme, Alexis Navalny, l'opposant russe mort le mois dernier dans sa prison.
Et on le voit, bien vivant, en une du journal, en veste beige et t-shirt blanc, c'était le 17 décembre 2020, un mois avant son arrestation sur ordre de Poutine. Ce jour-là, Navalny répondait aux questions d'un élu français, Jacques Maire, chargé par le Conseil de l'Europe d'une enquête sur l'empoisonnement qui avait failli le tuer. Navalny parle des surveillances qui le visent, des menaces... Avant, si on m'avait dit que Poutine voulait me tuer, j'aurais dit non. Je comprends que je peux être emprisonné, harcelé, ce genre de choses. Mais tuer des gens avec une arme chimique, ça paraît fou. J'ai pensé qu'il n'utilisait de telles méthodes que contre des terroristes, des espions ou des traîtres. C'était une très grosse erreur.
Et dans cet entretien, Navalny explique pourquoi le recours au poison est particulièrement redoutable.
L'empoisonnement, contrairement à l'accident de voiture, laisse beaucoup de place à la spéculation, dit-il. C'est suspect, mais qui sait ce qui s'est passé exactement? Et le deuxième objectif, peut-être le principal, c'est terrifiant. Les gens commencent à avoir peur. Même ici, en Europe, certains politiciens se disent « on peut juste mettre un produit sur ma porte et je meurs ». Et cette peur, Navalny la regardait en face. Il me menace, il saisit mon appartement, mes comptes bancaires. Serais-je arrêté à l'aéroport? Peut-être après. Eux-mêmes ne savent pas. Ils ne veulent pas que je revienne pour ne pas avoir à prendre une décision. Ce serait la meilleure option pour eux que je devienne un émigré parmi d'autres.
Le problème, c'est que l'exil n'est plus une protection pour les opposants. Une grande enquête du Wall Street Journal le démontre de façon édifiante.
Papier glaçant, dont le journal L'Opinion publie ce matin une version française. Le quotidien américain recense les cas de mort subite, avec de gros guillemets, mort subite d'opposants, de transfuges et de déserteurs russes à travers le monde depuis le début de la guerre d'Ukraine. Des hommes d'affaires ont été retrouvés pendus à Londres ou noyés à Porto Rico. Un homme politique est tombé du toit d'un hôtel en Inde et un vice-ministre de 46 ans est mort d'un mal inexpliqué dans un avion. Le mois dernier, l'assassinat en Espagne d'un pilote d'hélicoptère de 28 ans qui vivait caché depuis sa défection était de toute évidence un signal. Interrogé sur la mort de ce pilote, l'ancien premier ministre russe Dmitri Medvedev a déclaré « Les chiens meurent comme des chiens ».
En France, on ne chasse pas les opposants, mais on cherche les économies budgétaires et ça s'annonce douloureux.
Ce n'est pas du Novitchok, mais de la potion amère. Déficit, le gouvernement face au mur, titre Les Échos. En une, Bruno Le Maire et le ministre des Comptes Publics, Thomas Cazenave, font grise mine en perd la rigueur. Même lunettes, même costume bleu nuit, même dossier sous le bras et même regard préoccupé. On parlait de 10 milliards d'économies à trouver la semaine dernière, en plus des 10 milliards déjà prévus. Eh bien, tout augmente. Le dérapage du déficit oblige l'exécutif a trouvé 20 milliards d'économies en plus pour 2025, résume le Figaro. Libération trouve aussitôt les explications des ministres bien austères, façon pour le journal de dénoncer déjà une politique d'austérité. Pas du tout, répond l'Opinion, dont l'éditorialiste Rémi Godot s'étrangle. Nos dirigeants devraient avoir honte de gaspiller l'argent prélevé sur le labeur des contribuables.
Voilà un personnage qui ne s'est pas beaucoup économisé. Le Point révèle l'incroyable histoire du plus grand donneur de sperme de tous les temps.
Et oui, il s'appelle Jonathan Mayer. C'est un Néerlandais de 42 ans, avec un look de surfeur un peu enrobé, de longs cheveux blonds et des chemises hawaïennes. Il a été prof de guitare, postier, consultant en crypto-monnaie. Il aurait commencé à donner son sperme à 25 ans, touché par l'infertilité d'un de ses amis. En 14 ans, il prétend avoir passé 50 000 heures à cette généreuse activité, sans doute pour l'argent, mais il ne le dit pas vraiment. C'était un habitué des banques du sperme et des sites internet spécialisés. Il livrait sa marchandise à domicile et les candidates à la maternité procédaient ensuite à des inséminations artisanales. Le résultat, c'est que le sérieux donneur, comme dit Le Point, aurait conçu entre 600 et 1000 enfants aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne, en Italie, en Australie, en Amérique du Sud et peut-être même en France.
50 000 heures à cette généreuse activité en 14 ans. Il va falloir faire des calculs parce que, à mon avis, ça fait beaucoup d'heures par semaine à donner. La justice a fini par le rattraper car on n'a pas le droit de donner son sperme inconsidérément.
Depuis 1992, explique Le Point, le donneur doit obligatoirement se faire recenser et s'engager à modérer son don de soi. Sinon, il serait impossible de contrôler le nombre de grossesses obtenues grâce au même géniteur. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de registre ni de règles internationales. Jonathan Meyer s'est glissé dans ce vide juridique, si on peut dire. Des poursuites ont été engagées par un collectif de familles qui s'inquiète du risque d'inceste que peut faire naître cette situation, ou en tout cas de consanguinité. Si l'on compte 10 enfants par donneur, la probabilité qu'un demi-frère et une demi-sœur entrent en relation est de 0,011%. S'il y en a eu 1000 pour Meyer, le risque est donc supérieur à 1%. Ce n'est pas tout à fait rien. En avril 2023, le tribunal de La Haye lui a interdit tout nouveau don. Il était temps. Aux Pays-Bas et en Belgique, on réfléchit à légiférer à la suite de cette affaire pour empêcher qu'un tel cas se reproduise. Si des lois sont adoptées, Jonathan Meyer pourra en revendiquer la paternité.
C'est incroyable cette histoire. Ça en fait des cousins, dis donc.
Ah, c'est énorme.
Il y en a tous les cousins Meyer.
Eh bien oui, avec une drôle de ressemblance parfois.
Il faudra lui attribuer la Légion d'honneur, pardon. Merci à Vega Tenuret.
Demain
pour la revue de presse. Tout de suite, notre esprit libre du jeudi. C'est l'événement du jeudi sur Radio Classique. J'ai nommé Franz-Olivier Gisbert.